à 1500 mètres.
Espace 2, Jean-Luc Rider.
Bonjour. Vous voyez comme David Mestrier, il est allé pour vous cet été assister à l'atelier de musique ancienne de Gruyère et il vous fournit un sous-titre, Troubadoubadou. Musique en mémoire.
Vous savez ce que c'est qu'un organistrum ?
Non, pas du tout.
Extraordinaire. Oui. Mais pourquoi il y a une manivelle ?
Organistrum. Do you know what an organistrum
yes,
is ?
Yes.
Yes.
Yes. Oh. Very nice. Yes.
Commodo, organistrum, construit à tout. Comment construire l'organistrum ?
Un organistrum, vous savez ce que c'est, madame ?
Non.
C'est donc un instrument de grande taille qui nécessite deux instrumentistes. Il adopte la plupart du temps la caisse de résonance de la vielle archère.
Vous savez ce qu'est un organistrum ?
Non, franchement, non.
En fait, c'est un instrument qui est très, très ciblé dans le temps.
Et donc, est-ce que vous savez ce qu'est un organistrum ?
Non.
C'est donc un instrument de grande taille qui nécessite deux instrumentistes.
Eh bien, je suis content d'apprendre ça.
Eh bien, merci. Bonne journée.
Voilà, au revoir.
Au revoir.
Mais qu'est-ce que je vois, David Mestri ? Bonjour, David.
Bonjour, Jean-Luc.
Votre organistrum n'est pas complètement fini encore ?
Oh, il faudra toute la semaine pour le terminer. L'organistrum, l'instrument du temps des troubadours, mais instrument sacré, comme on l'a appris hier, de la bouche de Christian Rau, notamment, qui est le maître du stage de lutherie de Gruyère, que l'on va retrouver aujourd'hui. Derrière, dans la salle des gardes du château de Gruyère, une très belle salle ancienne qui donne sur le paysage merveilleux de cette bourgade fribourgeoise. Et Christian Rau, il nous parle tout d'abord de ce spectacle donné toutes les années à Saint-Jacques-de-Compostelle, l'une des capitales de l'organistrum, Jean-Luc, puisque l'instrument figure gravé, sculpté sur le porche de la cathédrale. Et toutes les années, tous ces instruments joués par les 24 vieillards de l'Apocalypse sont mis en scène dans un spectacle. Et c'est une des rares occasions d'entendre un organistrum. Nous en avons quelques-unes aussi cette semaine grâce au disque choisi. Mais donc ce spectacle était montré dans la salle des gardes grâce à un écran où passait le DVD de ce spectacle de Saint-Jacques-de-Compostelle.
Et effectivement, sur la couche du 12e siècle, je vais y arriver, on avait du bleu et du rouge. Hein, je peux vous montrer l'esquisse faite à l'aquarelle à partir des relevés d'échantillons. Je vais vous montrer ça.
Et donc là, ce qu'on voit sur ce spectacle, c'est une reconstitution de...
De tous les instruments du Porche de la Gloire. Tous les instruments du Porche sont restitués. Et l'idée de l'Ordo Prophetarum, qui est le nom de cette œuvre...
C'est un jeu donc médiéval, de drame, de théâtre médiéval.
C'est-à-dire l'idée, c'est une idée qu'avait eu un musicologue qui s'appelle Serafin Moralejo, qui est décédé maintenant, qui avait vu le Porche de la Gloire comme une représentation verticale d'un théâtre liturgique qui se jouait à l'horizontale. Et avec au centre le Pantocrator, le Christ en gloire, avec tous les différents prophètes qui sont représentés sur chacune des colonnes, avec l'arc des musiciens, l'organistrum au centre, etc. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont repris chacun des prophètes, y compris j'ai plus tous les noms en tête, mais y a aussi Ézéchiel, y a aussi David, ils ont retrouvé les textes et parfois des musiques qui correspondaient à la présentation de ces personnages, et chacun de ceux qui sont sur les colonnes se présente et déclare le texte qui est leur texte fondateur, accompagné par les instruments du Porche. Et c'est donc un spectacle qui a lieu en fin d'année dans la cathédrale de Saint-Jacques depuis 2 ou 3 ans. Tous les ans.
Et alors, la place de l'organistrum, vous dites, c'est au centre de cette...
Alors oui, la place de l'organistrum dans le portail est très particulière, puisqu'elle est exactement au sommet. Et on a donc les 24 vieillards de l'Apocalypse de Saint-Jean qui sont représentés.
Comme dans beaucoup de porches médiévaux.
Comme beaucoup de porches médiévaux, puisque l'Apocalypse est à l'ordre du jour à ce moment-là, comme une espèce de renaissance, hein, pas du tout l'Apocalypse dans le sens fin du monde. C'est aller vers la Nouvelle Jérusalem, aller vers la Cité Céleste, aller vers une vie humaine meilleure. Et on a donc ces 24 vieillards qui symbolisent en fait les 12 prophètes de l'Ancien Testament. et les 12 évangélistes du Nouveau Testament, et les deux groupes étant reliés par le seul instrument qui est à cheval, comme un trait d'union entre l'Ancien Monde et le Nouveau Monde, et dans l'axe exact du portail, c'est la roue du temps qui tourne, la roue de l'organistrum, qui fait cette liaison vivante entre ce qui a été annoncé et ce qui va venir. Et oui, l'organistrum a une place très, très symbolique, très forte.
C'est le seul instrument qui se joue à deux.
C'est le seul instrument qui se joue à deux, voilà.
Et vous voulez me montrer des couleurs alors de...
Oui, absolument. Mais c'est quand même, c'est une opération qui a été faite sans moyens, par contre par des gens très compétents, puisque c'est l'Institut Royal du Patrimoine Artistique de Bruxelles. Et voilà la maquette réalisée par Myriam Serdewet, qui est donc la directrice de l'IRPA à Bruxelles. Voilà la première maquette qu'a fait à partir de la couche la plus profonde, la couche qui est censée correspondre au XIIe siècle. Et là, on a effectivement un organistrum qui est bleu, rouge et or.
Voilà les éclisses, hein, donc les côtés des deux cercles sont bleus, et puis rouge et or pour la décoration.
Pour la table, et tout ce qui est frontal, voilà, avec chevalet et roue en bleu, ce qui est peu concevable pour la roue parce que elle supporte pas vraiment la couleur, elle.
Hein. Oui, oui.
Enfin bon, on est dans un phénomène souvent plus symbolique.
C'est-à-dire que c'est la représentation qui a ces couleurs-là. On ne sait pas si les instruments étaient vraiment...
Exactement. Enfin, les instruments de cet ordre-là étaient polychromés, c'est sûr.
Oui. Hein. Puis celui qui est en train de naître sous nos yeux, là, vous avez déjà décidé des couleurs et de la décoration, etc.
Pas encore. Vous voyez, voilà un autre. Ça, c'est un instrumentarium que j'avais réalisé pour la Fondation Royaumont à Paris. Et là, on a fait un organistrum très très polychromé, mais vous voyez qu'il l'est beaucoup moins que
celui qui est sur ce spectacle de Santiago. Et puis les autres sources iconographiques, donc à part certaines sculptures très précises comme celle de la cathédrale de Saint-Jacques, ce sont des enluminures médiévales. On peut s'y fier aussi pour retrouver l'instrument.
J'ai recensé 25 figurations d'organistrum, et depuis 25 ans, on n'en a pas trouvé d'autres, donc on peut penser que c'est relativement complet. J'ai plus les proportions exactes en tête, mais il y a quand même grosse majorité en sculpture, pas mal aussi en enluminure, et chaque image, la plupart des images apportent chacune des informations qui se complètent quand on passe d'un document à un autre, qui se contredisent aussi parfois. J'ai quand même travaillé beaucoup sur ce sujet-là, et on va dire, ce sera le sujet de la conférence en fait un petit peu, hein, dire qu'il y a une espèce d'évolution qui correspond à la mise au point d'un instrument quand même, d'une technologie très complexe. L'évolution jusqu'à arriver à un modèle qui soit je l'appelle abouti et qui va se répéter sous la même forme à plusieurs reprises, jusqu'à ensuite l'évolution du clavier, l'avènement de l'orgue qui va prendre la place de l'organistrum, hein, au XIIIe siècle. Hein.
Orgue portable.
Les orgues, oui, peuvent être un peu plus gros déjà, mais la technologie de l'orgue est parfaitement maîtrisée à partir du XIIIe. Bien sûr, antérieurement, on connaissait l'hydrôle des Romains. On sait que à la cour de Charlemagne, il y en avait eu. Il y a toute une histoire autour de l'orgue, mais c'était pas contrôlé vraiment. Hein. L'orgue devient un instrument contrôlé au XIIIe siècle et il supplante l'organistrum.
Quand vous dites contrôler, ça veut dire précis.
Technologiquement, hein? Bah oui. C'est qu'il y a des tas de problèmes de clavier, de fuite d'air, de pression, de justesse, de nature de tuyau. C'est compliqué un orgue quand même. C'est une sacrée machine.
Et puis l'organistrum, par contre, il n'y a aucun instrument qui dormirait dans un musée ou un morceau de instrument. Il n'est pas du tout parvenu jusqu'à nous.
Là, on est quand même au XIIe siècle. On a des fragments en archéologie d'instruments de cette époque, mais ce sont vraiment des fragments. C'est pas non plus parce qu'ils sont conservés qu'ils sont nécessairement représentatifs de ce que étaient les pratiques les plus habituelles. Malheureusement, à ma connaissance, non, on n'a pas ça. Hein.
Thank you.
Christian Rowe, vous avez ici donc une perceuse électrique, une meule aussi apparemment électrique. Hein. Vous n'êtes pas puriste pour l'utilisation des instruments anciens, vous ne construisez pas la chignole encore.
Quand on a une semaine pour faire un instrument comme celui-ci, on se pose la question, là on va le faire pour l'intérieur, est-ce qu'on utilise la scie à ruban ou est-ce qu'on scie à la main hein? Quand c'est des sciages complexes avec des gens qui n'ont pas beaucoup de métier, qu'on a une seule semaine pour faire l'instrument, il y a des passages techniques où on utilise, c'est vrai, des technologies, enfin ici en tout cas, des technologies qui sont à notre disposition, qui nous permettent de ne pas passer une heure avec des gens qui ne sont pas expérimentés, parce que chantourner des pièces compliquées à la main et des pièces qui font plus de 10 cm d'épaisseur, ça demande un petit peu de métier. Voilà. Effectivement, on n'hésite pas à utiliser une meule pour affûter les ciseaux ou les rabots, et à utiliser la scie à ruban si on a besoin. Hein, c'est pas,
Mais vous avez fait des instruments de A à Z uniquement avec les techniques médiévales?
Non, je peux, parce que les blocs, je les prépare quand même toujours. Le résultat obtenu est complètement médiéval. Par exemple, quand on fait des vielles à archet, c'est taillé dans une seule pièce de bois, depuis la tête jusqu'à l'extrémité de la caisse de résonance. Hein. C'est le tout est fait dans un seul morceau. Mais je chantourne avec la scie à ruban.
Est-ce que vous êtes à la tête d'un atelier où il y a plusieurs autres employés ou bien vous êtes tout seul?
Non, à l'heure actuelle, je travaille tout seul. Et j'ai une activité qui se partage à peu près à moitié-moitié entre les activités de construction à l'atelier de tous les instruments archets anciens, donc baroques et Renaissance et médiévaux. Donc ça, c'est une moitié de mon activité. Et l'autre moitié, c'est une activité de recherche, de rédaction, d'enseignement.
D'organologue.
D'organologue, voilà. Donc j'ai aussi pas mal de déplacements, j'enseigne un peu partout, j'interviens un peu partout. Donc voilà, mon activité se complète entre les bouquins, l'ordi d'un côté et l'atelier de l'autre.
Et vous connaissiez Gruyère déjà?
Non, c'est la première fois que je viens à Gruyère.
Vous avez rencontré Philippe Mottet auparavant?
Non, Philippe, on a eu un contact, m'a appelé au téléphone en me disant « Christian, voilà, j'ai un projet à Gruyère, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu serais partant et tout ?» Une fois que j'ai entendu les raisons, le but du boulot, j'ai dit « Mais bien sûr, Philippe, banco, je suis là. »
Vous avez fait un tour du château déjà, vous avez vu?
Ça, pour l'instant, trop encore, rapide. Il y a plein de choses que... Non, je connais surtout le chemin qui m'amène de la porte jusqu'ici.
Il faut grimper. Hein. Je trouve que c'est un endroit qui se prête très bien à la trova, non? Vous pensez pas?
Absolument. Non, on est. Il m'avait dit, tu sais, c'est un peu sombre. Il y a le public qui passe, etc. On est pas mal sollicité pour parler à droite, à gauche, etc.
Désolé.
Ouais. Bon, en fait, ça se passe très bien.
Thank you.
Pardon.
Première boire.
C'est plutôt l'heure du blanc.
Pour moi, oui. Vous avez un... Tout à fait.
Merci.
Plaisir.
Vous qui êtes un spécialiste du 12e siècle, Christian Roux, vous connaissez les boissons et les vins du Moyen-Âge?
Je ne fais pas moi de la recherche culinaire, mais il y a des gens qui font ça très bien. Hein. Je suppose qu'en Suisse comme en France il y en a quelques-unes, il y en a même pas mal, des fêtes médiévales où on sert des hippocrates, on sert des vins parfumés à la cannelle, au poivre, etc. Des vins de rose, etc. Donc là, il y a des gens beaucoup plus compétents que moi pour parler de la chose. Mais bien sûr qu'on savait vivre.
Oui. On imagine que c'était quand même des piquettes un peu souvent. Hein. La vinification a beaucoup évolué. C'est peut-être ce qu'on imagine aussi du côté de la literie, mais...
Oui, je pense qu'il y avait quand même en Bourgogne, je veux dire, en venant jusqu'ici, j'ai fait une pause à Beaune. Très tôt, il y avait des caves en Bourgogne avec des vins destinés au roi qui devaient être vinifiés d'une façon extraordinaire.
Et qu'on coupait souvent avec de l'eau, non? C'est pas le cas.
Alors, je ne me prononcerai pas sur le sujet. Savoir si au Moyen-Âge, on coupait de l'eau avec le vin, ça devait dépendre des saisons, des moments et des moyens et des envies.
Alors, santé. C'est un grand mystère, mais il y a peu de vignerons qui sont lancés dans les
l'étude des vins.
Non, de la facture, justement, de refaire des vins à l'ancienne avec des méthodes. Il paraît que c'était quand même des breuvages assez épais. Moi, c'est un Philippe Bosson qui a écrit un peu
sur. Bosson a écrit là-dessus sur le vin, oui.
Sur la cuisine. Ouais, ouais. On imagine quelque chose
d'assez épais. Je crois qu'il faut se garder des généralités. Hein.
Ouais,
il y a tellement de régions, tellement eu d'époques différentes dans le même Moyen-Âge que tout a pu être possible à des moments différents, dans des endroits différents. Je suppose qu'en plein été, en Andalousie, on ne buvait pas le vin de la même façon que dans d'autres endroits.
Mais c'était une boisson qui était presque bu comme de l'eau aujourd'hui, parce que on ne buvait pas d'eau parce que c'était dangereux pour la santé à cause des bactéries.
Oh, il ne faut pas exagérer, on avait des sources beaucoup plus pures qu'aujourd'hui.
Hein. Oui.
Alors bon, dans les villes, évidemment. C'est-à-dire que le problème, quand on parle du Moyen-Âge, c'est qu'on a plus de 1000 ans d'histoire, hein, en gros du 6e au 16e, et on en parle comme d'une chose. Alors que c'est une succession d'époques extrêmement différentes, avec il y a des périodes extrêmement florissantes, extrêmement belles, et puis il y a des périodes terribles, il y a des successions de printemps et d'hiver, et puis c'est une zone aussi géographique assez étendue, toute l'Europe chrétienne. Donc il faut bien se garder des généralités. C'est toujours plus intéressant de parler d'un endroit précis à un moment précis et voir si on sait quelque chose ou pas, que de parler du Moyen-Âge en général.
Mais alors vous, votre endroit précis, votre...
Dans le Moyen-Âge,
c'est la Renaissance qu'on a...
Moi, j'ai travaillé un petit peu sur l'ensemble des périodes maintenant. Ma période de prédilection, c'est effectivement le 12e siècle, qui est un moment où la société se fonde, où les hommes reprennent confiance en eux, perdent la peur de la nature et se mettent à créer de toutes parts, à voyager, à se rencontrer. C'est un monde entier qui est en mouvement. On dit qu'à ce moment-là, l'Europe se couvre d'un manteau blanc de pierre, de poussière de pierre de taille, parce que alors que la plupart, mis à part quelques châteaux, la plupart des maisons, c'était des cabanes ou c'était des choses en bois, etc. Au milieu de chaque hameau, en tout cas dans la région dont je suis originaire, dans tout l'Ouest, le Poitou, Charente, l'Aquitaine, etc. Chaque hameau, chaque groupe de 5-6 maisons, tout le monde arrêtait tout, on se mettait à construire une maison pour tous, en pierre sculptée, magnifique, grandiose, etc. Et toute la population circulait de village en village pour travailler dans un chantier puis dans un autre, etc. Il y avait des pèlerinages, il y avait des échanges d'idées, tout le monde se mettait à inventer, on s'appelait frère, c'était quand même une sacrée découverte.
Même entre laïcs aussi, alors, c'est pas seulement les moines.
Les différences entre laïcs et moines n'étaient pas toujours si évidentes que ça. Il y avait bien sûr les grands ordres qui avaient une politique déjà bien claire en ce qui concernait l'expansion du christianisme, la direction vers Saint-Jacques, préparer la reconquista, développer les sciences, développer le savoir, développer les écoles, etc. Mais l'ensemble de la population, lui, entre clercs et laïcs, la différence n'était pas toujours la chrétienté n'était pas installée comme elle l'est aujourd'hui. Il y avait beaucoup plus, et les dogmes étaient beaucoup moins arrêtés. Il y a beaucoup plus de marge de liberté, à tel point que l'Église s'est battue pendant des siècles pour essayer de régler, de contrôler les mœurs, non seulement du peuple, mais beaucoup des princes et des évêques, etc. Enfin, et du clergé. Il y a eu à cette époque-là, il y a la querelle des investitures qui commence, où la papauté essaye de reprendre en main la nomination du personnel clérical qui était nommé par le Seigneur, point à la ligne. Donc, les choses étaient beaucoup moins, puisque c'était quelque chose en commencement. Il y a une autre période qui est magnifique aussi, c'est la Renaissance, qui est un nom très paradoxal, parce que la Renaissance, c'est un vrai, peut-être le moment le pire de l'histoire du Moyen Âge, c'est aussi là où commencent à pointer les bases d'un monde.
15e, 16e siècle, ça c'est
le 16e surtout, ouais. 14e et 15e siècle sont parmi les siècles les plus sombres, avec à partir de l'effondrement de l'Empire romain. On a l'Empire carolingien, le règne de Charlemagne même, où il y a une certaine renaissance qui se produit, intellectuelle et tout, mais elle reste quand même très centrée sur certains milieux, très très ciblés. Puis avec l'explosion du Saint-Empire en trois parties d'abord, et puis son effritement complet, on tombe dans une période relativement sombre où il n'y a plus de contrôle, quoi.
Ça veut dire violente, des guerres.
Oui, violente, invasion, plus de valeurs partagées, des agressions, la misère, la famine, la peur, tout simplement. Donc chacun vit planqué. Et une fois passé l'an 1000, il y a un renouveau qui commence au 11e siècle et qui va exploser au 12e ou au 13e, où le nombre d'inventions, de découvertes, de mises en pratique est extraordinaire, quoi. C'est un très très beau siècle.
Et l'organistrum est une de ces inventions qui vaut la peine d'être découverte.
Absolument, voilà. On considère souvent que beaucoup d'inventions qui ont été mises en pratique au 12e avait déjà été imaginé ou pensé lors de cette première renaissance du 9e siècle carolingienne, donc, mais que la structure, l'état d'esprit des hommes de l'époque, etc., l'espèce de dogmatisme, de peur aussi, a fait que toutes ces choses-là sont restées en sommeil jusqu'au début du 12e où ça explose, où toutes ces choses-là trouvent leur application, le moulin à eau, la scie hydraulique, le moulin à vent, la charrue lourde, toutes ces choses-là, ça, avec le 12e siècle, et sans compter les progrès architecturaux fantastiques qu'ont amené la multiplication des édifices religieux, des églises.
Et les châteaux, ici on est sous une voûte de la salle des gardes, le toit est plat mais la fenêtre est un peu voûtée avec ses murs extraordinairement épais, donc c'est un signe à la fois de la peur de l'assaillant, mais plutôt
C'est différent. On est dans un endroit militaire. Donc la chose c'était de se défendre, de se protéger. Et les murs ici sont si épais que Gruyère a résisté d'une façon exemplaire par rapport à tous les autres fiefs féodaux, si j'ai bien compris. Il a résisté très longtemps. Donc la résistance est un facteur de l'épaisseur des, une relation avec l'épaisseur des murs. Mais pour les édifices religieux, c'est autre chose. C'était de faire des nefs de plus en plus grandes jusqu'à les premières cathédrales qui sont aussi du 12e siècle. Les années 1140, 1150, 1160, on a vu naître toutes les premières grandes cathédrales.
Thank you.
Ce qu'on est en train de faire, c'est mettre, sélectionner exactement les outils qui vont nous permettre de faire bien. Mm-hmm. Parce qu'il faut tailler du tilleul en bout, tu vois, et il faut que ce soit. Ça glisse, tu vois. Ouais, non, faut tracer juste.
Faut tracer juste.
Et puis donner un coup de canif carrément, couper la fibre, tu vois, en surface, hein, pour savoir exactement où on se trouve. Non, mais là, ça coupe suffisamment, hein. La coupe est nette, là, cette fois-ci, hein. Donc, ouais, mais si, c'est vrai que si tu fais ça, hop, tu marques, là.
C'est ça, bon, c'est ça, bon, c'est ça. C'est bon, ah,
donc c'est venu naturellement comme ça, on va le laisser. On nettoiera juste un petit peu l'arête là, au fond en prenant la couche par ici et par là. Ça se termine, tu vois, propre et puis c'est tout. Voilà. Bien nettoyer le plan. C'est incroyable. Et petit peut-être. Et à un moment, on pourrait presque attaquer par l'autre côté. Hein. De toute façon, faudra. Voilà, bien. Attends, on dégage d'abord. On y voit un peu plus clair.
Là, vous faites un trou dans une pièce qui est une pièce définitive de...
Non, du tout, du tout. On est en train de préparer les mortaises qui vont, dans lesquelles le clavier va coulisser. Il y en a une série à faire. Comme ici, on fait aussi avec les outils qu'on a et avec les... Voilà. On est en train de sélectionner, on fait des essais de mortaises pour voir quel ciseau, quelle gouge et quelle lime on va utiliser pour le faire. Parce qu'une fois qu'on a commencé, il faut les faire tous pareil et que ça...
Et tout le bois, c'est tout le tilleul, 100% tout l'instrument.
Alors, comment dire, tout ce qui est structure, table et fond de l'instrument et plumier, c'est tout tilleul. Tout ce qui est résonant. Par contre, tout ce qui va supporter des contraintes mécaniques, le clavier, le chevalet, le cordier, alors on va les faire en noyer.
Noyer qui est un bois beaucoup plus dur.
Plus résistant, oui. Ouais. Le tilleul a l'avantage d'être léger, homogène, tendre, et c'est à la fois un avantage pour le travailler, pour faire des instruments dans la masse, et en même temps, c'est un bois qui peut se marquer facilement s'il y a un outil qui dérape un peu.
Et la roue était
en... La roue, on va la faire en érable.
Pour quelle raison ?
Parce que le tilleul est trop tendre, le noyer est trop poreux, il faut un bois qui soit dur et homogène pour faire la roue. Hein. Et l'expérience montre que l'érable, le sycomore est tout à fait adéquat.
L'instrument que vous aviez fait il y a une trentaine d'années, je crois, celui qui est là-bas, il était aussi dans les mêmes bois ?
Oui, je ne me souviens plus pour la... Oui, c'est le noyer pour la manivelle. Il y avait du cerisier aussi pour la coulisse du...
Il a été beaucoup joué, cet instrument.
Oui, c'est le seul instrument que j'ai jamais construit que j'ai décidé de garder.
Ah oui.
Parce que c'était symbolique, c'était personnel, c'était affectif, c'était... Je l'ai fait en même temps que j'achevais le livre sur l'organistrum. Et pour mille raisons, j'ai décidé de garder cet instrument. Donc il sert, il est prêté à des ensembles, ou pour des films, ou pour faire des tournages, ou pour des prises de son, ou... Voilà, c'est un instrument que j'ai gardé.
Et Christian Rowe, vous avez étudié la symbolique aussi de toutes ces décorations, le tressage du manche, etc. Il y a des raisons, on comprend tout, le double filet qu'il y a sur la tresse.
Oui, si on regarde la symbolique de l'instrument, c'est pas si évident que ça. On a de toute façon, on a deux cercles à coller. On a dans le cercle central de l'instrument, on a vraiment la croix. On a des feuilles.
C'est partie résonante, ça. Hein.
Voilà, c'est la rosace, on peut dire. Hein. Des feuilles qui sont à la fois des feuilles de palme et des feuilles de vigne. Quand on regarde l'original, on voit que c'est un petit peu entre tous les deux. Non, pas vraiment, non. C'est plutôt entre vigne et palme. Hein. Comment dire ? Tout simplement, cet instrument a été fait en 85, donc. Il a été fait avant l'observation détaillée du Porsche sur les échafaudages, etc. J'étais encore, je le demeure, un débutant. Et le traité, j'allais dire, stylistique de ce qui concerne le décor de cet instrument est plus néo-gothique que roman. Hein. Et à s'approcher des documents, à se pénétrer de ce que c'est le style roman, etc. Certains détails de courbe, de forme, etc. vont changer dans ce qu'on va faire ici aujourd'hui. Hein.
Et les deux cercles ont un nombre de points, j'imagine, qui n'est pas dû au hasard. Il y a des décorations avec des points.
J'ai peur que oui, que ce soit qu'il n'y ait pas vraiment de J'ai des photos très détaillées, je vais vous laisser compter. Oui. Et vous me direz comment ça. Parce qu'il y en a peut-être une centaine ou plus.
Oui.
Donc, et la tresse, c'est vraiment un motif décoratif qu'on retrouve sur beaucoup de colonnes, sur en roman, dans beaucoup d'endroits vraiment. Quel est le symbole de la tresse, là? J'avoue que j'ai une tresse à trois brins qui se termine jamais, qui en continue. Je ne m'avancerai pas là sur ces choses-là.
Et vous disiez que vous étiez débutant, Christian Roux, en 1985, mais donc vous venez de l'art, en fait, vous étiez sculpteur à l'origine.
Alors, d'une part, je suis effectivement peintre et sculpteur de formation à Paris, j'ai fait les arts déco, je suis sorti dans les années 74, et puis ensuite je suis parti apprendre la facture instrumentale à Cremona, en Italie, où j'ai appris les techniques que je pratique tous les jours pour la construction de violons, viols de gambe, violoncelle, etc. Techniques que j'ai jamais quittées, mais donc parallèlement à ça, très tôt, j'ai mis en route des recherches sur les instruments anciens. Et on utilise des techniques de construction qui sont pas du tout les mêmes au Moyen-Âge qu'à la fin de la Renaissance avec les premiers violons.
Et à la fin des années 70, les instruments qui existaient médiévaux étaient un peu farfelus ou bien n'étaient pas encore très étudiés, très scientifiques?
C'était un petit peu ça le départ de mon implication dans ce domaine. C'était de constater que les gens qui faisaient de la musique médiévale utilisaient des instruments qui n'avaient rien à voir avec ce que je voyais dans les miniatures et surtout sur les sculptures. Et côtoyant beaucoup ces gens-là, etc., c'était évident qu'ils avaient des violons déguisés en médiéval. C'est-à-dire que les choix de bois, les choix des techniques, des cordes, des accords, de la forme du chevalet, c'était tout emprunté au violon. Structure interne avec barre, âme, etc., érable épicéa, éclisse pliée au fer, etc. Et quand je regardais les documents, c'était pas du tout ça. Et donc je me suis intéressé à collecter l'iconographie, à parcourir tous les édifices romans, gothiques, pour collecter principalement les photos de sculptés, puisque c'est beaucoup plus difficile d'avoir accès aux manuscrits, dans un premier temps en tout cas, beaucoup plus difficile, et ça se comprend parfaitement. J'ai donc commencé un tour d'Europe, un tour des édifices avec jumelles, trépied, téléobjectif, et observer, prendre des notes, etc. Ce qui m'a permis à un certain stade d'en déduire les procédés de construction. Les éclisses pliées au fer, comme sont les côtés du violon, c'est en fait une technique qui apparaît très très tard sur les instruments à cordes frottées. Il faut attendre le 16e pour que ça se présente en Europe, en Italie. Avant, on est sur une autre type de technique qui est chantournée, on l'appelle, ou monoxyle. Chantournée, c'est dans un bloc de bois épais, on dessine l'ensemble de l'instrument, tête, manche et caisse. À la scie, on découpe l'ensemble de cette masse. Et ensuite, on perce la caisse de résonance et on scie l'intérieur. Après avoir sculpté les éclisses à différents stades, et on vient rapporter table et fond. Et l'instrument est terminé. Un instrument archet jusqu'au début du XVIe siècle, c'est trois morceaux de bois. À partir du moment où arrive le violon, on est sur 90 morceaux de bois.
Oui. Hein, et en tout cas, on arrive à déduire de la précision des dessins alors anciens.
Alors,
parce que ça semble difficile à voir sur une miniature.
Voilà, bon, je vais en parler un petit peu pendant la conférence. L'indice qui m'a mis sur la piste, c'est que les éclisses, les côtés des instruments médiévaux, ne sont quasiment jamais droits, comme le sont des éclisses pliées au fer. Ils sont profondément sculptés, ou en tout cas sculptés, creusés, incurvés, tuilés,
concaves,
exactement. Chose impossible à obtenir avec des éclisses pliées au fer. Et au fur et à mesure de mes recherches, de mes travaux, etc., je suis tombé au musée de Vienne sur deux instruments du XVIe siècle qui avaient encore qui était construit, la lira da braccio d'Andrea de Vérone, construit en 1511, et un autre instrument qu'on appelle la viola da braccio, dont l'auteur est inconnu, mais qui date des mêmes années, qui sont deux instruments conçus selon le procédé médiéval, l'ensemble des éclisses, le manche et la tête, extraits d'un seul morceau de bois. Et pour moi, la relation s'est faite tout de suite avec tout ce que j'avais pu observer sur les instruments médiévaux. Après, c'était l'expérimentation pour voir si ça marchait, comment ça marchait, etc. Et depuis, c'est devenu une certitude. Les éclisses pliées au fer apparaissent très tard. Leur première application, c'est au XIIIe siècle à l'Andalous, sur les premiers grands luths composites, c'est-à-dire composés avec des côtes collées les unes contre les autres, alors que jusqu'à cette époque-là, le luth était taillé dans une seule masse de bois lui aussi, hein. Cette technique s'est donc développée à l'Andalous et c'est à partir de 1492, disons un petit peu avant 1492, la vihuela se développe en Espagne. Et là, on fait les premières tentatives en Espagne des éclisses pliées au fer adaptées aux instruments archets. Hein. Et en 1492, c'est donc l'abdication de Boabdil, l'expulsion de tous les juifs et les musulmans. Les musulmans vont partir vers le Maghreb. Les juifs vont se diriger plutôt vers l'Italie, puisque le royaume de Naples, le royaume d'Italie et le royaume d'Espagne étaient quand même très liés. Et c'est eux qui vont importer la technique des éclisses pliées au fer et les vihuela et les viols qui vont importer en Italie, où le premier artisan qui est reconnu pour avoir fait ça, c'est Andrea Amati. Andrea Amati, en fait, était plus que probablement catalan et s'appelait Andreu Amat. Et c'est lui qui a importé en Italie les techniques d'éclisse pliée au fer, en tout cas, qui l'a, pour la première fois, les a appliquées au violon.
C'est le contraire de Christophe Colomb, qui lui était italien et
exactement.
A travaillé pour les Espagnols. Donc les progrès de la lutherie médiévale sont énormes dans ces 20 dernières années, on peut dire, Christian Roux.
Absolument, absolument. On peut aujourd'hui proposer des instruments qui sont historiquement et scientifiquement crédibles et pour des périodes très reculées, pour des périodes renaissance ou médiévales.
Hein ? Mais la plupart des ensembles qu'on entend sur les disques qui jouent de la musique médiévale jouent ces instruments authentiques, entre guillemets, ou bien est-ce qu'on a encore beaucoup de choses un peu bizarres?
Non, pour l'instant, c'est encore, ça fait bon une dizaine d'années que ces instruments sont au point. Il y a déjà une école dans le sens d'état d'esprit qui reconnaît ces instruments-là et qui les pratique. Il y a aussi des gens qui les pratiquent. Royaumont a largement contribué à la diffusion en créant des stages de pratique musicale autour des vielles notamment. Et j'étais récemment à une rencontre de luthiers un peu spécialisée dans le médiéval là en France. J'étais heureux de constater que maintenant la plupart des luthiers qui s'intéressent au médiéval utilisent des techniques et des bois et des structures qui correspondent beaucoup mieux à ce que c'était à l'époque qu'il y a 20 ans effectivement. De ce point de vue là, il y a eu un gros progrès. La difficulté, c'est que la vielle médiévale déguisée en violon, n'importe quel violoniste la prend et dit « oh, ça marche, ça vient, c'est bien », alors que ces instruments là demandent un réapprentissage
du jeu,
hein, puisqu'on a deux cordes doubles, un bourdon extérieur, le chevalet quasiment plat, il n'y a pas de barre, il n'y a pas d'âme, c'est pas de l'érable de l'épicéa, ça demande un archet particulier, ça demande une prise de son particulière, et c'est un apprentissage qu'encore beaucoup de gens qui veulent se mettre à la musique médiévale ont parfois du mal à faire.
Hein. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, ça semble évidemment logique de prendre les choses qu'on connaît pour refaire des choses plus anciennes, il n'y a pas aussi le problème d'arriver à faire sonner un instrument par une sorte de table rase pour le fabriquer? Un organistrum, il va bien sonner même si on oublie tout ce qui est toute l'acoustique, toute l'évolution de l'acoustique.
Alors, il ne faut pas oublier toutes les applications de l'acoustique. Ce qu'il faut oublier, c'est toutes les techniques modernes et toute l'esthétique moderne et les habitudes modernes. Moi, je suis un vieux militant pour expliquer que quand on s'intéresse au passé, il ne faut pas y aller avec son regard de contemporain et s'intéresser aux choses du passé avec la condescendance qui vont de pair. Les premiers instruments médiévaux, donc, c'était le savoir-faire du luthier, fabricant de violon, qui regardait des choses différentes. Non, le travail, c'est de partir de la source et de suivre les évolutions techniques à partir du moment où on a la preuve qu'elles existent. Hein. Et là, on a une toute autre vision des choses. Et c'est vrai que de refaire des instruments archéo-musicaux, ça peut dire, j'ai des musiciens qui ont l'habitude du violon, peuvent prendre ces instruments et dire « Oh, ça sonne pas !» Mais donner un rebeb andalou, par exemple, à n'importe quel violoniste, il va dire « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Mais qu'est-ce que ce truc? Vous donnez un erhu chinois à un violoniste, il va dire « Mais attendez, mais ça marche pas ce truc-là » Et vous savez la musique qu'on fait avec ces instruments. Donc c'est une question d'un petit peu d'humilité, de reprendre l'instrument comme il est. Je dis pas qu'on peut pas y apporter des améliorations, mais en restant dans l'esthétique et dans les structures qui sont de l'époque.
Mais comme vous faites, vous, Christian Roux, par exemple, lorsque on a sous les yeux cette photo du portail de Saint-Jacques-de-Compostelle, lorsque vous imitez un instrument en pierre qui n'existe nulle part ailleurs pour en faire un instrument qui doit sonner, je pense qu'il y a des moments où vous dites il manque quelque chose, où vous n'arrivez pas à trouver d'où peut surgir le son.
Oui, bah ça se fait pendant une journée. Hein. Parler de l'organistrum, ça fait le bouquin est sorti en 85, j'ai eu fait sept années avant de travailler sur l'organistrum, donc calculez-vous-même, je veux dire, ça fait depuis 78 que je bosse, que je fais des essais, que je fais des tentatives, que je suis confronté aux musiciens, que les musiciens qui essayent, qu'on fait des enregistrements. enregistrements qu'on fait. C'est un long travail. On a eu des périodes de travail en équipe magnifiques. Il y a quand même de beaux projets de restitution d'instruments médiévaux qui sont faits en pluridisciplinarité, avec des historiens des sciences et des techniques, avec des spécialistes des techniques médiévales, toutes sortes de spécialistes qui étaient des musicologues, des organologues, des luthiers, qui étaient présents en même temps. On discutait ensemble autour du même document, échanger tout, faire des essais. Et combien de fois on a à Santiago, il y a eu à Saint-Jacques-de-Compostelle, il y a eu 4, 5, 6 fois chaque instrument a été recommencé, hein, entre le projet initial et à Lugo. On a travaillé pendant 4 années pour mettre au point les vielles médiévales, en équipe avec des élèves, des étudiants en luthier qui travaillent avec nous. À Orange, ils s'en est fait autant, à Puyvert autant, je veux dire, à Royaumont également. À force de travailler, on arrive quand même à dire, ça se fait pas en une journée, quoi, hein, c'est pas.
Et en fait, Christian Rose, c'est votre combien-tième organistrum ?
Je sais pas, j'ai pas compté.
Ah, il y en a beaucoup déjà.
J'ai pas compté. Ça doit faire une douzaine ou une quinzaine entre Dubois et tout.
Ah oui. Ouais.
Il y a différents modèles, hein. Et puis parce qu'il n'y a pas que Saint-Jacques, hein, de Compostelle, il y a Notre-Dame de Paris, un très beau modèle, au Palais Gelmirès, à côté de la cathédrale de Saint-Jacques, mais c'est un tout autre document d'une autre époque. Il y a aussi un très très beau modèle qu'on a reconstitué à Orense, on a reconstitué aussi là-bas l'instrument. Donc il y a différents modèles, il y a différentes possibilités.
Il y a beaucoup de luthiers qui s'y intéressent. Donc
Il y en a eu quelques-uns, oui. Il y a une époque, dans les années 85, justement, il y avait un Allemand qui s'appelait Kurt Reichmann, qui s'est aussi bien intéressé à l'instrument, qui en a dû en fabriquer aussi un certain nombre. Et puis, il y a toujours de temps en temps, voilà, un allumé qui dit « Attends, je vais faire un organistrum. »
Dans mon garage. Oui,
ça peut être aussi à la demande de musiciens, quand même, hein. Jean-Claude Condy en a fait, je sais, un luthier français. Voilà, je vois pas d'autres pour l'instant, mais c'est un instrument qui a quand même, il est impressionnant, il est spectaculaire, il donne envie d'y aller, quoi, il donne envie de.
Un atelier de musique ancienne à Gruyère, en l'occurrence c'était le 7e du 23 au 30 août passé, c'est des apéritifs, c'est des stages de lutherie avec cette construction d'un organistrum. On s'en rend bien compte grâce à vous, David Mestri, mais aussi des conférences, des expositions, des cours de maître, et demain nous rejoindrons Brigitte Laine pour un cours sur l'art des troubadours, mais c'est aussi un concert.
C'est plusieurs concerts, et notamment celui de cet ensemble à la Francesca, autour de Brigitte Laine, la harpiste et chanteuse, qui sera donc notre invitée demain. Et c'est un concert qui était sous les micros d'Espace 2 le 30 août dernier. Voici quelques extraits en préambule, donc, et en invitation à Brigitte Laine, avec ce programme Trobar et Joglar, Troubadour et Ménestrel, en pays d'Oc, jusqu'en Italie du Nord. Thank you.
Un concert auquel vous avez assisté, c'était le 30 août dernier, pour clore ce 7e atelier de musique ancienne que vous avez fréquenté pour nous, David Mestri. On y entendait l'ensemble à la Francesca et Brigitte Laine. Brigitte Laine, votre invitée demain, dans le cadre de son cours de chant médiéval, qui faisait la part belle cette année à l'art des troubadours, David Mestri.
C'est exact.
Cette émission Musique en mémoire peut compter chaque jour de l'année sur l'assistance de production d'Isabelle Watson. Et cette semaine, c'est Bruno Seriba qui signala la réalisation de cette proposition de Jean-Luc Rider.
Espace 2. Des copies de nos émissions au 026 323 24 24.
L'affaire vous intéresse ? Oui, c'est complètement normal. Chaque émission de Musique en mémoire s'entend aussi la nuit. Dès minuit en nouvelle diffusion sur Espace 2, elle se podcast aussi si vous en avez envie. Mais nous, c'est donc bien demain à 9h que nous avons rendez-vous à Gruyère dans le cadre de cet atelier de musique ancienne avec Brigitte Laine, s'il vous plaît. D'ici là, je vous souhaite de très doux moments. Tenez, pourquoi pas ici ou là à l'écoute d'Espace 2. Bye bye.
Espace 2, Catherine Buzer.
Bonjour à tous et bienvenue.
L'île au trésor.
Peinture, littérature ou musique, notre invité du mois de novembre, le compositeur français Éric Tanguy, a longtemps hésité entre ces trois voies, mais c'est finalement la musique qui l'a emporté. Depuis son enfance, Éric Tanguy taquine les muses, il compose, et il est aujourd'hui l'un des compositeurs privilégiés qui vit entièrement de sa musique. Son catalogue compte déjà plus de 80 compositions et explore pratiquement tous les genres et toutes les formes, de la musique de piano à l'opéra, en passant par les domaines de la musique de chambre et de la mélodie. Lyrique, démonstrative, lumineuse, virtuose et jubilatoire, mais aussi mélancolique, profondément intime, confinée, grave, parfois secrète aussi. La musique d'Éric Tanguy est faite de contrastes et se nourrit de cette dialectique. Elle est d'une grande richesse et se déguste comme un grand cru avec délectation. Et c'est une grande chance de l'accueillir toute cette semaine à l'enseigne de l'île au trésor et de l'entendre parler de son travail et de ses coups de cœur. Éric Tanguy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un artiste polyvalent qui aimait associer la musique à d'autres disciplines comme la littérature, la peinture et même le cinéma. On peut se demander d'où vient cette passion pour les arts et qu'est-ce qui vous a incité à choisir la musique plutôt que la peinture ou la poésie ?
Alors la musique, l'histoire de la musique dans ma vie, c'est un jour, j'étais enfant, mes parents écoutaient un disque d'Ivry Gitlis. Voilà, donc la musique est entrée dans ma vie comme ça. Et puis j'ai grandi, je me suis passionné pour d'autres formes d'expression, la peinture. Il y a un peintre célèbre surréaliste qui s'appelle Tanguy. Alors c'est vrai qu'à un moment donné j'avais envie d'être peintre contemporain, moderne, et puis je me suis dit bon, il y aura peut-être pas deux Tanguy dans le monde de la peinture. Et depuis, en fait, depuis que je suis enfant, j'écris de la musique. Alors j'écrivais aussi comme tout le monde des poèmes, voilà. Mais c'est la musique qui s'est imposée.
Tout naturellement.
Tout naturellement. Alors je continue bien sûr d'être très curieux en matière de création picturale. D'être très lié à certains peintres comme Bordereux ou Ming ou Gérard Fromanger, mais aussi de me sentir très, très influencé et surtout d'avoir besoin de me nourrir de littérature contemporaine. Pour ça, je suis extrêmement heureux de lire des œuvres nouvelles de Gérard Oberlé ou de Philippe Le Guillou, Jacques Chessex, qui est un très grand écrivain aussi, que j'ai beaucoup lu et que je continue de lire. J'ai collaboré avec Xavier Couture, avec Alain Duhaut, avec plein de gens. Pour moi, évidemment, l'aboutissement de tout ça sera un jour un opéra avec des décors contemporains, de la danse, un texte magnifique, je l'espère, et puis une musique qui, je l'espère, servira à ce texte.
Une sorte d'œuvre d'art totale.
Voilà.
Et bien, donc toutes ces passions, et bien, nous allons les approfondir tout au long de cette émission puisque vous avez choisi justement de rendre hommage aux artistes que vous, avec lesquels vous aimez collaborer. Et puis bien, nous allons ouvrir cette émission avec une nouvelle composition de votre plume qui est justement le reflet de ces triples passions pour les arts que vous avez, pour la peinture, pour la littérature et donc bien entendu la musique. Et nous avons choisi d'ouvrir cette émission avec une pièce qui s'intitule « Prière ». Alors elle est née dans des circonstances assez particulières. Je vais vous laisser les raconter aux auditeurs.
Tout à fait. Mon ami, le peintre Philippe Bordereux, a conçu une installation à la fois peinture et vidéo, sur la scène, donc la cena en italien, avec les apôtres, donc des crânes, le Christ qui parle en vidéo, enfin une bouche qui est censée être la bouche du Christ parlant, etc. Et je suis allé voir cette installation et je l'ai trouvée somptueuse. Mais j'ai dit à Philippe Bordereau, il manque quand même quelque chose à cette installation. Il manque la musique, il manque une musique qui ne serait pas une musique d'accompagnement simplement, mais qui serait un élément complètement intégré à l'installation. Et en fait, Bordereau m'a dit, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et il se trouve que à Caen, ma ville natale en Normandie, une abbaye a été entièrement, qui avait été détruite hein, pendant la guerre, a été entièrement reconstruite et est devenue l'IMEC, l'Institut de mémoire des écritures contemporaines. Et l'IMEC a pris en charge donc cette création, à savoir une pièce pour cœur d'enfant, puisqu'il y a à Caen une maîtrise formidable, la maîtrise de Caen, que dirige Olivier Obdebeck. Et cette maîtrise a donc chanté une musique qui faisait écho au texte et à l'installation de Bordereau dans un lieu formidable, l'abbaye d'Ardennes, avec bien sûr le travail de Bordereau qui était présenté. Et ce texte, j'ai oublié de le dire, c'est très important, est un texte, aussi bien dans l'installation que dans ma musique, un texte de Philippe Le Guillou, très grand écrivain qui a eu le prix Médicis en 1997, pour un roman merveilleux qui s'appelle « Les sept noms du peintre ».
Eh bien, on va découvrir avec plaisir cette pièce qui a été enregistrée lors du concert de création, si je ne m'abuse, et qu'on trouve sur ce magnifique coffret paru sur Transat Live.